France Culture. France Culture, Chrétien d'Orient, Ulysse Maness.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à mon invité Antoine Fleifel, enseignant-chercheur, philosophe, théologien, fondateur et directeur de l'ICO, Institut des Chrétiens d'Orient. Bonjour Antoine, vous êtes bien installé ?
Bonjour Ulysse, oui très bien, merci de m'accueillir.
Je voulais commencer par une question philosophique directement, disons je mets les pieds dans le plat, une question costaude. Est-ce que c'est tragique quand vous naissez chrétien d'Orient ?
Pas du tout, je trouve que c'est une chance. C'est une chance de naître déjà, d'accueillir la vie. Et lorsqu'on constate que cette vie qui est en nous est tellement riche comme elle est, on est reconnaissant pour ce qu'elle est. Je suis reconnaissant d'être né en Orient. Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Occident. Et je suis reconnaissant pour toute l'ouverture universelle que me permettent aujourd'hui mes recherches, mes rencontres et mes activités.
Alors pourquoi est-ce qu'on a souvent l'impression, peut-être que ça flotte dans l'opinion générale, que le thème des chrétiens d'Orient est immédiatement assimilé à un thème tragique, dramatique, complexe ?
Très malheureusement, c'est une impression en France qui remonte au XIXe siècle. Car lorsqu'on a commencé à parler des chrétiens d'Orient, on en a parlé dans le cadre d'une question d'Orient qui est très complexe, et on en a surtout parlé pour les défendre dans le cadre de violences qu'ils ont vécues à plusieurs reprises. Ça a commencé avec la révolte grecque, c'était parmi les premiers au XIXe siècle à avoir été appelés les chrétiens d'Orient, mais surtout durant la seconde moitié du XIXe siècle, avec les massacres du Mont-Liban et de Damas, puis avec les massacres des Arméniens. Tout cela a fait que dans la conscience française, plus spécifiquement en Occident, on a eu cette idée de communauté persécutée, éventuellement par l'islam, qu'il faut absolument soutenir, qu'il faut sauver. C'est vrai qu'il y a eu des violences objectives, mais c'est extrêmement réduire les chrétiens d'Orient que de les voir à partir de cet angle. Parce que les chrétiens d'Orient, c'est une culture, c'est une histoire, c'est un peuple, ce sont des peuples très divers, très variés, très différents. On y trouve de la musique, de la littérature, du cinéma, de l'amour, de la haine. On trouve des histoires bizarres, de belles histoires universelles. C'est une histoire humaine, en fin de compte. On fait des projections sur cette histoire humaine. Mais moi-même, j'ai grandi, j'ai passé quasiment les 24 premières années de ma vie au Liban. Et même si j'ai passé une bonne partie de ces années durant la guerre, je ne considère pas mon existence comme tragique. J'ai les plus beaux souvenirs de cette période, parce que ce dont je me souviens, même s'il y avait la mort et la souffrance, je me souviens des rapports humains qu'il y avait, de la solidarité, de la joie d'être ensemble, et de la joie aussi de se réveiller tous les matins et de se trouver vivant. Et la vie est l'un des plus beaux dons qu'on peut avoir.
Alors, vous devancez un peu, on va parler de la gaieté, de la générosité, de l'hospitalité, mais je voulais quand même vous faire une suggestion, une réflexion. Milan Kundera, l'auteur franco-tchèque, a parlé des petites nations d'Europe centrale, et il a défini les petites nations, c'était pas du tout un terme géographique pour dire qu'elles étaient petites dans leur volume ou leur dimension, mais parce qu'elles connaissaient la précarité existentielle et l'incertitude ontologique. Et en gros, elles sont constamment menacées, ces petites cultures, au pied des grands empires, par les velléités impériales des puissants. En ce sens, peut-être, cette notion de précarité existentielle est une notion un peu applicable, transposable aux minorités culturelles du Moyen-Orient et a fortiori aux chrétiens d'Orient.
Certainement. Lorsqu'on est dans la guerre, qu'on vit la guerre, qu'on voit des gens qui sont autour de nous en train d'être tués par des obus ou autres, on est vite réveillé à la précarité de la vie, à sa fragilité. Mais je dirais que cette fragilité de la vie ouvre aussi au mystère de la vie et à la beauté de la vie. Ça permet en quelque sorte de l'apprécier davantage. Kundera est certes un auteur très appréciable, et puisque vous en citez un, je vais en citer un autre. Je vais citer le soufi Jalal ad-Din Rumi, qui dit « N'ayez pas peur des blessures que vous avez dans votre cœur, parce que c'est à travers ces blessures que la lumière divine traverse. » Donc oui, de petites nations, de petits peuples, écrasés parfois par les grandes puissances. Si on parle du Liban, depuis plusieurs milliers d'années, il est toujours entouré de grandes puissances géopolitiques qui lui marchent dessus, qui l'instrumentalisent, qui l'utilisent. C'est un état tampon. Sa situation géographique le condamne à cela. Néanmoins, à travers cette précarité apparente, c'est la fragilité de la vie, en fin de compte. C'est le pari de vivre. Mmh. Et au Liban aussi, il y a cette tendance à remercier cette vie d'être là, parce que malgré cette précarité, on est toujours vivant. Donc ça ouvre à quelque chose de beaucoup plus puissant. Et peut-être que l'exemple du Christ qui meurt sur la croix, dans une injustice humaine incommensurable, nous montre le chemin de cette précarité qui donne après la lumière.
Il y a aussi l'idée... Ensuite, on basculera vers le sujet, en effet, de la gaieté, mais il y a aussi l'idée que vous avez évoquée quand on préparait cette émission de l'exil. L'exil est aussi souvent vécu dans une tonalité tragique. L'exil, l'exode, les départs forcés dans l'urgence, ça fait aussi partie de la conscience des christianismes orientaux ou des chrétiens d'Orient.
Je crois que l'idée de l'exil est une étape de cette conscience. C'est une étape qui s'impose, on n'y peut rien. On est exilé, tout en sachant que moi-même, je ne suis pas un exilé. Je suis venu en France par amour pour la France, tout en gardant mon amour pour le Liban. Et ce sont deux amours qui expriment mon amour et pour l'Orient et pour l'Occident, qui sont deux aires culturelles, toujours l'une en face de l'autre, qui regorgent de tellement de synergie et de tellement de richesses. Je crois que l'exil est une expérience qui est très douloureuse. Elle est vécue par les chrétiens d'Orient, elle a été vécue et elle est toujours vécue par de nombreuses nations. Les exemples ne manquent pas. Néanmoins, je crois que l'exil extérieur est parfois le miroir d'un exil intérieur. Et l'exil extérieur, qui est un exil physique, questionne l'exil intérieur, questionne l'être humain sur sa véritable identité. Est-ce qu'il est un exilé parce qu'il change de terre? Ou est-ce que cette condition d'exil est une condition profonde qui est en lui-même? Et je crois que l'étape qui vient après cet exil extérieur, cet exil, comme diraient certains, du monde de la dualité, c'est de voir où est la véritable demeure de l'être humain. Si le chrétien d'Orient qui est en Occident se sent exilé, la question se pose pour lui, quelle est sa véritable demeure? Est-ce que sa véritable demeure est une terre avec toute l'importance que la terre peut revêtir? Ou est-ce que sa véritable demeure est quelque chose qui dépasse de loin cette terre? Quelque chose qui relève du monde de l'intérieur et qui sait habiter le monde de l'intérieur ne se retrouve plus exilé où qu'il soit parce qu'il sent habiter la vie où qu'elle se donne, où qu'elle se déploie et où qu'elle s'ouvre à lui.
Vous êtes philosophe et théologien, alors je vous pose une question philosophique. Est-ce qu'on peut être soi sans chez-soi?
Mais le chez-soi, où est-il? C'est ça la question. Si le chez-soi devient le soi, on a tout gagné. Et on comprend que la véritable authenticité, elle ne se trouve pas dans quelque chose d'extérieur à soi, mais elle se trouve au plus profond de soi-même. Et c'est le chemin le plus long, le plus difficile, mais en même temps, le plus proche et le plus accessible que de faire ce chemin de soi à soi pour savoir où habiter la vie, cette vie qui habite déjà en nous, qui a son réceptacle premier dans notre conscience, en nous-mêmes.
Quand vous parlez de la gaieté des christianismes orientaux et de toutes ces cultures, vous pensez à quoi immédiatement? C'est quoi les images de gaieté,
le Christ,
de joie?
Le Christ, je pense au Christ. Il y a une très belle antienne dans la liturgie orthodoxe en arabe. Il y a la farhati al-masih haqqan qam, oh ma joie, le Christ est véritablement ressuscité. La gaieté et la joie, pour un chrétien d'Orient, elle vient surtout du Christ. J'étais très frappé il y a quelques années, en 2021, lorsque j'ai accompagné avec l'œuvre d'Orient le pape François, qui rendait visite, qui visitait l'Irak, et nous étions allés à Erbil dans des camps de réfugiés chrétiens. C'était des réfugiés qui avaient fui Bagdad, et il y avait toujours des réfugiés plusieurs années après la fin de Daesh. Et nous parlions avec cette dame qui nous parlait de cette situation, de sa situation, et elle nous disait à quel point ses conditions de vie étaient difficiles, elle était complètement isolée, elle était malade, elle n'avait pas d'argent, elle ne savait pas quoi faire, elle avait peur de sortir du centre où elle était. Mais en même temps, il y avait une certaine sérénité. Elle nous racontait des choses très dures. Et moi, je lui ai dit, mais alors, avec tout ça, comment vous le vivez-vous? Elle m'a regardé comme ça et elle m'a dit, avec joie, parce que Christ est là. Et quand il est là, je n'ai peur de rien. C'est vrai que c'est comme ça, mais que la situation est difficile, mais Christ est là. Oui, ce Christ, c'est notre joie, et c'est quelque chose qui dépasse seulement la donnée religieuse ou la donnée dogmatique. C'est quelque chose qui est fondamental. Alors bien sûr, on peut rajouter à tout cela beaucoup de circonstances qui apportent la gaieté. Vous parliez tout à l'heure des petites nations. Effectivement, les petites nations vivent parfois plus d'adversités et de difficultés que les grandes nations qui ont le temps de développer des structures qui offrent aux êtres humains des conditions de vie décentes ou plus stables. Néanmoins, lorsqu'on est dans la difficulté, on n'a pas le choix, il faut être heureux. Parce que si on n'est pas heureux, on meurt de tristesse. Et je me souviens bien que durant la guerre, malgré tous les malheurs, la destruction et la mort qu'il y avait, on rigolait, on dansait, même quand on était dans l'abri. Même maintenant avec les circonstances difficiles, ça n'empêche pas des personnes de se lamenter ou de pleurer ou de dénoncer ce qu'il se passe. Mais c'est quelque chose, je dirais presque que ça existe dans l'air, dans l'eau, dans les montagnes, dans l'humour parfois déplacé pour les Occidentaux qu'ont les Orientaux, dans ces mélodies musicales qui poussent immédiatement à la danse dès qu'on écoute une mélodie traditionnelle, qu'elle soit libanaise, qu'elle soit syrienne, qu'elle soit égyptienne. On est immédiatement poussé à bouger, à bouger des hanches, à bouger
de la tête. Puis le musicien en vous est particulièrement sensible aussi à cette dimension musicale, oui.
La musique occidentale, j'ai été formé à l'occidental, j'ai joué du Bach, du Beethoven, du Mozart, bien sûr. Mais la musique orientale a quelque chose de différent. Elle a un rythme différent, elle a les quarts de ton, et elle a cette capacité à saisir le cœur, mais d'une manière différente. Alors certes, il y a des cantates de Bach qui me mettent en extase, Gib dich zufrieden, ou les passions de Saint Jean ou de Saint Matthieu. Néanmoins, en Orient, il y a ce genre musical qui n'existe pas en Occident, qui est le tarab.
Bien sûr.
Qui est cette musique tarab, qui pousse à l'extase. Voilà.
Ouais. Et qui est un mélange d'hyper-présence et d'absence totale, en fait.
Tout
le tarab,
à fait.
C'est un état de transe.
Mais... Tout à fait. Une absence dans le sens d'un abandon à ce dionysiaque qui nous saisit, pour parler en termes nietzschéens. Et ça, c'est très fort. Et je dirais même que cette musique est une musique qui précède le consentement, qui précède la liberté personnelle. Parce que on est bien sûr, et à raison, très attentif dans les communautés, dans les pays occidentaux, sur le consentement, sur la liberté de conscience, sur le libre arbitre. Et tant mieux, c'est quelque chose de bien. Mais ça, c'est quelque chose qui précède le moment où on se dit, est-ce que je consens ou pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Parce que ça saisit de l'intérieur. Et cette extase musicale, bien sûr, à laquelle on peut rajouter les aliments, les couleurs, les paysages, les histoires, les odeurs, tout ça remplit le cœur de gaieté et fait que malgré les difficultés permanentes, le contexte oriental est en état de reconfiguration depuis la question d'Orient. Malgré cela, il y a quelque chose de très fort anthropologiquement qui saisit les êtres humains.
Je suis heureux que vous ayez mentionné aussi la danse, puisque je voulais vous poser une question à ce sujet. Il y a des fêtes liturgiques très officielles, comme la Transfiguration à Anjar ou ailleurs, sur les places des villes, et on peut voir des gens danser, par exemple le dabke, cette danse populaire euphorique du Levant, entre le Liban, la Syrie, la Jordanie. Et est-ce que cette danse, c'est une célébration folklorique ou une sorte de prolongement de la théologie?
Je ne sais pas si elle est un prolongement de la théologie. Il est certain qu'elle est folklorique, il est certain qu'elle exprime le tempérament oriental. On se tient tous la main, on est en solidarité, et ensemble, on foule le sol, et on le foule avec vigueur. On est là, on est présent. Il y en a un, le premier de la file, qui est en train de danser, qui est en train de développer davantage ses mouvements. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que les musiques traditionnelles qui ont accompagné le dabke, ou la dabke, ça dépend comment on utilise le genre, le dalouna, le mijana, le ataba, ce sont des genres qui chantent soit la tristesse, soit l'amour, soit la mélancolie, sont dans des rythmes qui s'apparente au rythme religieux, notamment de l'église maronite, mais pas que aussi, peut-être byzantin aussi. Beaucoup de chants liturgiques anciens, quand je les écoute, je me dis, mais ces chants, il suffit juste d'accélérer un peu le rythme pour danser le dabke dessus. Il n'y a rien de plus simple. On prend le chapelet de prière et au lieu de l'égrener, on le tourne pour danser, comme le premier de la file de dabke le fait. Par exemple, Ramre main mor ramre main emar mor antalmidaw. Ça, c'est le psaume qui introduit les lectures dans la liturgie maronite. Mais si on accélère le rythme, Ramre main mor ramre main emar mor antalmidaw. Voilà. Là, on peut danser le dabke.
Vous ne dansez pas encore là dans le studio, mais on est à deux doigts là.
On est à deux doigts, tout à fait. D'autant plus que le chapelet est à la main.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que la joie, c'est un art difficile?
Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui dépend beaucoup de ce que la nature donne aux différents êtres humains. Je vois qu'il y a des personnes qui ont parfois une grande difficulté à être heureux, mais parfois, quand on les met dans certains contextes, ils le sont. Moi-même, j'ai mon expérience de la joie, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'ininterrompu dans ma vie. Depuis le début, pourtant, elle a été parsemée de circonstances très difficiles depuis ma naissance, mais la joie ne m'a jamais abandonné. Face aux difficultés, je ne prenais pas les choses au sérieux. Je faisais ce que je devais faire, mais je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Mais je reviens au Christ, même si j'ai beaucoup de circonstances dans ma vie qui peuvent me pousser à parler de la joie. Ma découverte de la philosophie, de Spinoza,
je pensais à Spinoza,
de Nietzsche et de beaucoup de philosophes, et des stoïciens même, m'a beaucoup apporté. La joie du philosophe qui sait, qui est conscient, qui est sage, qui accepte les choses qui ne peuvent pas changer.
Et au cœur du tragique surtout, c'est ça aussi.
Surtout au cœur du tragique. C'est pas avec Spinoza et Nietzsche qu'on va pas passer à côté de ça. Et même dans la tragédie grecque, la joie du théologien qui fait des recherches, qui découvre des choses, qui découvre le monde occidental, la joie musicale. Mais au-delà de tout ça, pour moi, c'est cette joie du Christ. Et l'un des versets de Jean exprime beaucoup ce que je vis intérieurement lorsqu'il voit ses disciples. Il leur dit « Maintenant, vous êtes tristes, mais lorsque vous me rencontrerez, vous serez heureux et personne ne pourra vous prendre cette joie. » Et c'est une joie qui ne dépend pas de quelque chose qu'on obtient, qu'on possède, de circonstances. C'est une joie qui est là comme la vie est là. C'est une joie qui est là comme la respiration est là. Et elle est un don. Très humblement, je suis ce mouvement intérieur qui m'est donné. Mais en même temps, bien sûr, toutes les circonstances de ma vie m'ont poussé à cette joie. Et la philosophie, et la théologie, et la musique, ces trois voies maîtresses dont Hegel a parlé, c'était l'une des idées qui m'avait beaucoup marqué dans mes études philosophiques. Hegel considère que l'absolu se manifeste selon trois modes, à travers la religion, la philosophie et la musique ou l'esthétique. Oui, c'est une grande source de joie. Vous rencontrer est une grande source de joie. Connaître les cultures auxquelles je m'ouvre depuis des années, que mes études me poussent à découvrir, est une grande source de joie. Mais néanmoins, ces joies qui viennent de l'extérieur, qui viennent de ce que j'apprends, viennent s'appuyer sur une joie qui est au-delà de tout ça et qui ne m'appartient pas, qui me saisit.
J'ai été sensible à la citation que vous avez donnée sur les larmes et la gaieté, puisque ça me fait penser à une phrase de Mozart citée par Clément Rosset, qui lui est vraiment un philosophe de la joie et de la gaieté. Et Mozart a écrit dans l'une de ses correspondances « J'ai envie que tout cela soit si gai qu'on ait envie de fondre en larmes ».
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est une très belle formule. Et vous m'avez aussi parlé, dans les différents sujets qu'on peut aborder là aujourd'hui, de la question de l'hospitalité, ce qu'on appelle régulièrement l'hospitalité d'Abraham, qu'on retrouve dans les mondes orientaux, mais aussi dans les Balkans, dans le Caucase, donc dans tous les anciens mondes ottomans. Et souvent, c'est l'hospitalité des déshérités, c'est-à-dire que quand on n'a pas grand-chose ou quand précisément on éprouve un épisode tragique, ça décuple le sens de l'accueil et de l'hospitalité. Donc, est-ce que vous pouvez me dire un mot sur cette joie hospitalière et proverbiale de ces régions ?
Ces régions sont en même temps un lieu de rejet et un lieu d'hospitalité. Ces régions sont un lieu de rejet parce que les communautés, pour différentes raisons historiques, se sont crispées sur elles-mêmes, pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, et se sont rejetées. Le chrétien rejette le musulman et vice-versa, rejette le juif, l'arabe rejette le turc, l'oriental rejette l'occidental. Et très malheureusement, on grandit dans ces contextes, des contextes de rejet. J'ai connu ça, je suis passé par ça, on n'a pas le choix, on est dans le chaudron. Néanmoins, une fois cela vécu, si on a la possibilité de s'ouvrir à l'autre, quand parfois la vie nous envoie des déclencheurs, des circonstances qui nous ouvrent à l'autre, on constate à quel point l'autre est porteur de richesses, l'autre qui soit le musulman, le chrétien, le turc, l'arabe, l'occidental, et à quel point le cœur de l'homme peut devenir le lieu d'accueil de l'autre. Le lieu d'accueil de l'autre, non comme un autre, mais comme soi-même qui est projeté. Et à ce moment-là, quand on voit l'autre, quand on voit le musulman ou le chrétien ou le juif ou le turc ou l'arabe ou l'occidental, on n'est plus en train de s'ouvrir seulement à quelque chose qui est tout à fait différent, mais on est en train de découvrir la beauté et la richesse de la vie qui est au plus profond de nous-mêmes.
Ce qui veut dire que ce geste d'ouverture ou d'accueil est à la fois chrétien et universel.
Tout à fait.
Et dernière question, Antoine Fleffel, le temps a filé très vite. Est-ce que vous avez un chant ou une chanson qui représenterait cette résilience joyeuse, ou ne parlons même pas de résilience, juste cette gaieté, et ça sera la fin de notre émission avec cette musique.
Puisque nous parlions de Bach, j'ai pensé à son lead, « Ô Jésus, ma joie, Jesus, meine Freude ».
Alors on l'écoute. Et sur le début de cette musique, je vous remercie chaleureusement, Antoine Fleffel, pour cette riche conversation sur le christianisme oriental, sur l'Orient, sur ce balancier entre le tragique, la gaieté, la musique, la danse. C'était Chrétien d'Orient, une émission d'Ulysse Manès, réalisée par François Connac et coordonnée par Claire Poinsignon. À la technique aujourd'hui, Bastien Varigaud. Merci beaucoup, à très vite et bon dimanche.